Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la Voix de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nanit Talani. Presque tout le monde a déjà eu des maux de tête. Il arrive qu'en dépit de toutes vos tentatives pour les soulager, ils persistent, s'accompagnant entre autres de nausées ou vomissements, de la fatigue ou encore d'une sensibilité accrue au bruit, à la lumière et aux odeurs. Vous souffrez certainement d'une migraine. Qu'est-ce qui la déclenche? Comment ne pas la confondre avec d'autres types de céphalées? Que faire pour traiter une migraine?
Une douleur ou qu'elle siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, c'est d'arriver à poser un diagnostic. C'est pas la majorité, mais certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie.
Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Gallo Diop, chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Le professeur Amadou Gallo Diop répondra aussi aux questions que vous avez posées sur la page Facebook de VOA Afrique. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie présentée par Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Voici venu le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop. Bonsoir professeur Amadou Diop.
Et bonsoir.
Les céphalées, on sait que c'est des sortes de maux de tête, mais est-ce que céphalée veut forcément dire migraine?
Céphalée veut dire mal de tête.
Et ce mal de tête inclut donc la migraine?
Dans les maux de tête qui sont le symptôme de quelque chose, vous avez plusieurs causes.
Quelles sont ces causes?
Parmi ces causes-là, l'une des causes est la migraine, qui est donc une céphalée, un mal de tête qui touche une moitié de la tête. C'est pour ça qu'on parle de migraine. En général, mi, ça veut dire moitié de quelque chose. Et c'est un mal de tête assez spécifique dans le cadre d'une dizaine ou une multitude de causes céphalées ou mal de tête.
Mais qu'est-ce qui peut déclencher une migraine?
Alors là, migraine, comme je vous le dis, siège d'un côté de la tête, mais d'une crise de migraine à une autre, le côté peut changer. On peut avoir cette fois-ci mal à la moitié droite de la tête et une autre crise, avoir mal à la moitié gauche de la tête. Alors, les facteurs déclenchants, en général, au bout de quelques années de migraine, chaque malade finit par détecter des facteurs qui déclenchent ce mal de tête. Ils sont très variables et nombreux.
Professeur, que peuvent être ces facteurs?
Je peux vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques, quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique, mais auxquels ils sont sensibles, ou bien lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup.
Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchants de sa migraine.
Nous avons un auditeur, Léon Mouquet de la RDC, qui veut savoir si les migraines sont neurologiques ou infectieuses. Je pense qu'il veut parler de l'origine.
Oui, là, migraine n'est pas une maladie infectieuse du tout. Les céphalées, dans le cadre des maux de tête en général, peuvent avoir toutes sortes de causes. Certaines causes infectieuses peuvent faire mal à la tête. Le simple fait d'avoir un palud ou une grippe peut engendrer un mal de tête. Quand on a des causes graves comme une méningite, parmi les symptômes, vous avez le mal de tête.
Ça signifie clairement qu'il y a des causes non infectieuses.
Il y a plusieurs causes non infectieuses. Le simple fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a chez qui ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau.
Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc?
La migraine, c'est un problème vasculaire, c'est-à-dire que au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement, il se dilate ou brutalement, il se resserre. Et donc, cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum movens de la crise de migraine déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine, dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté, qui récidive pendant plusieurs fois dans la vie, n'est pas une maladie due à une infection, alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses du tout.
Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine? Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un?
Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude de voir, le mal de tête, je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme si le sang battait dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent, est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur?
Que disent ces patients?
Un bon nombre de malades vont vous dire, dans l'œil du même côté où s'est déclenchée ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sortes de flashs ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile.
Que signifie une douleur pulsatile?
C'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Chez d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Et ils finissent par savoir que dès la crise de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, sans bruit. Et ça, ça va contribuer tant soit peu à atténuer l'intensité de la douleur. Donc je répète quelques signes annonciateurs. Déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne. Suivi ou non d'autres signes accompagnateurs, nausées, vomissements, mal-être, vertige et autres. Et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière.
Nous avons une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle souffre actuellement des migraines. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison? Faut-il nécessairement consulter?
Une douleur où qu'elle siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de banal. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur, comme une fracture peut se manifester comme une douleur. Mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça, c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptôme-là, d'arriver à poser un diagnostic en vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant, ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires.
Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic?
Ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang, ça peut être une radio du crâne, ça peut être un scanner, ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM. Ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit a priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de malformation. Vos yeux, vos oreilles, vos tensions, tout est normal. Donc, il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, c'est pas une maladie grave. Donc, c'est vraiment aller consulter parce que certaines migraines, c'est pas la majorité, mais en tout cas, certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention à ce que je vais dire, c'est-à-dire quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête, et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre, à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau, parce que quand une migraine ne change pas de côté, c'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cacher une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres?
La migraine classique, mal de tête, changeant de côté, pulsatile avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire, sur 10 cas de migraine, les 8 voire les 9 vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça peut être un homme. Alors, quand on parle de migraine pure, sans cause dramatique derrière, et que ça touche une femme, parce que c'est la majorité. Si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc en 13, 14, 15, 16 ans.
Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer?
Va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente, pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles.
Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines?
Il y a des cas où l'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. C'est pas fréquent, mais ça arrive, surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc, il y a un facteur familial qu'on trouve des fois, ou des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la ménopause. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et donc, le fait que ça démarre vers la puberté pour s'arrêter vers la ménopause fait évoquer parmi les facteurs causaux de migraines, un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme.
Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines.
Il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celles qu'on a décrites chez la femme. Il existe par contre chez les hommes quelque chose qui est dans le même groupe de douleurs, mais qui ne va pas avoir un siège prépondérant au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage, et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes et il n'y aura que 1 ou 2 cas chez la femme.
L'algie vasculaire cérébrale, qui est une sorte de mal de tête, donc elle atteint plus les hommes que les femmes.
Il se trouve que l'algie vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent, passant in fine par une instabilité du calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion du cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça n'a absolument rien à voir, pour rassurer vos auditeurs.
Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé avec Lénore Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, octobre rose, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Et une survivante du cancer du sein partage son histoire dans l'espoir d'éduquer les autres. Ensuite, que savez-vous du cancer du sein? Êtes-vous préoccupé? Nous avons vos réactions. Enfin, des milliers de personnes marchent pour lutter contre le cancer du sein fête au Ghana. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un diagnostic que beaucoup de femmes craignent. Le cancer du sein est une maladie durant laquelle les cellules se développent de manière incontrôlable. L'Organisation mondiale de la santé indique que le cancer du sein se présente le plus souvent sous la forme d'une masse ou d'un épaississement indolore dans le sein. D'autres symptômes comprennent des écoulements spontanés provenant du mamelon, une rétraction du mamelon et un changement d'apparence de la peau d'un sein avec un durcissement. Selon Johns Hopkins Medicine, le cancer du sein triple négatif représente environ 10 à 20% de tous les cas de cancer du sein. Et il est plus agressif et plus susceptible de se développer chez les femmes noires. Le cancer du sein peut se développer chez les hommes et les femmes, mais il est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Selon les experts, une femme sur 4 risque de développer un cancer du sein contre un homme sur 100. Les données mondiales sur le cancer révèlent un taux de mortalité élevé par cancer du sein en Afrique. Et les raisons incluent le manque d'accès à un traitement adéquat, les mythes et les idées fausses sur la maladie, ainsi que le diagnostic tardif.
Le cancer du sein est le premier cancer chez les femmes dans le monde. Les données du Fonds mondial de recherche sur le cancer montrent qu'il y a plus de 2,26 millions de nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes en 2020. Selon les experts, au moins 80% des femmes survivent au cancer du sein en Amérique du Nord. Dans les pays à faible revenu, ce taux est inférieur à 50% et les femmes noires sont plus à risque. Le docteur Béatrice Fuafia-Adai est la présidente de Breast Care International, une organisation à but non lucratif de défense du cancer du sein basée au Ghana.
Nous avons beaucoup de cas de cancer triple négatif. Les Noirs américains en ont aussi, mais c'est parce que nous avons les mêmes racines.
Les chercheurs ont identifié des liens biologiques entre l'ascendance africaine et le cancer du sein triple négatif. Les scientifiques affirment que ce cancer est plus agressif et plus susceptible de se propager au-delà du sein et de réapparaître après un traitement. Ils affirment qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches sur le cancer du sein chez les femmes d'ascendance africaine afin qu'elles puissent bénéficier de meilleures options de prévention et de traitements spécifiques à leurs besoins. Le docteur Kafui Akapo, pathologiste, travaille avec Yemachi Biotech, une entreprise locale de recherche et de diagnostic.
Si vous regardez toutes les études à travers le monde, très peu d'entre elles concernent les Africains. Et ce que cela permet de faire, c'est d'étudier la population africaine, ce qui a des effets sur les Africains et les Afro-Américains, ainsi que sur tout autre groupe ayant une base en Afrique. C'est pourquoi c'est si important. Sans cela, vous n'avez pas assez d'éléments pour établir un lien avec le cancer du sein africain. La plupart de ces cancers se trouvent en fait dans la population blanche et non dans la population africaine.
Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein dans le monde entier, un moment pour informer et soutenir la population à ce sujet. Les experts médicaux affirment que l'âge, l'obésité, l'inactivité et la consommation d'alcool peuvent augmenter les risques de développer un cancer du sein et qu'une détection précoce et une action rapide peuvent augmenter les chances de survie.
Recevoir un diagnostic de cancer du sein peut être effrayant. C'est une expérience qu'Elewa Ubao Ali a vécue en 2019. Désormais guérie du cancer, elle a décidé de partager son expérience.
Ce moment a été très dur pour moi et pour ma famille. Je me souviens que je me réveillais, je faisais ma routine, je rentrais du travail, des choses normales, et mon médecin m'a appelé. Vous savez, mademoiselle Elewa, vous devez venir chercher vos résultats. Alors, je suis allée et le docteur s'est assis, m'a parlé en me tenant la main. Vous savez, nous avons vos résultats, mademoiselle Elewa. On vous a diagnostiqué un cancer du sein. J'ai dit quoi? Non, parce que je ne pouvais pas le croire. Car comme nous le croyons, le cancer du sein est héréditaire. Et pour autant que je sache, personne dans ma famille n'a eu de cancer du sein. Donc c'était un choc pour moi, un choc pour mon ami et ma famille. Mais Dieu merci, à partir de là, je me suis parlé à moi-même et j'ai beaucoup de foi. J'ai dit à Dieu, tu sais quoi? Je sais que je peux combattre ça. Nous pouvons aller de l'avant et commencer le traitement. Je suis allée voir un oncologue. Quand je suis allée le voir, il m'a dit, « Ok, mademoiselle Eloi, que puis-je faire ?» Une mammographie, encore une fois, et je veux m'assurer du stade auquel vous êtes et tout ce qui concerne votre cancer du sein. Donc, nous sommes rentrés, nous avons fait une mammographie. Après cela, ils ont découvert que j'étais au stade 3. Cela signifie que nous allons d'abord faire une chimiothérapie. J'y allais deux fois par semaine pendant 2 mois. Puis j'ai été opérée. Je me suis fait opérer, ils ont mis des implants et je me souviens que c'était en février 2020 et que le COVID-19 a commencé. Et après ma chimiothérapie, je n'ai pas pu rentrer à la maison pendant 4 mois. J'étais si effrayée, frustrée parce que je craignais que cela ne s'aggrave. Mon dernier traitement a eu lieu en novembre 2020, je crois. Alors, j'ai terminé mes radiations et mes opérations. Après ça, j'ai dû manger sainement. C'est très important. Vous devez changer vos habitudes, ce que vous mangez. C'est très important ce que vous mettez dans votre corps. Parce qu'avant, je ne le faisais pas. Alors maintenant, j'ai appris qu'il faut manger sainement, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut se sentir bien à l'intérieur pour le montrer à l'extérieur. Le message final que je souhaite transmettre à mes concitoyens est le suivant. Prenez soin de vous et sachez que le cancer du sein n'est pas seulement réservé aux familles. Tout le monde peut avoir un cancer du sein, jeune ou vieux. Vous pouvez l'avoir deux fois. Il suffit de prier, d'être unis et de s'entraider pour être plus fort.
Mariam Mokhtar Ali est responsable du programme technique pour le plaidoyer, la politique et la recherche auprès de la Medicaid Cancer Foundation. Elle nous en dit plus sur le cancer du sein.
So the causes of breast cancer are not established.
Les causes du cancer du sein ne sont pas établies scientifiquement, mais nous avons des facteurs de risque spécifiques à chaque type de cancer. Par exemple, pour le cancer du sein, nous avons des facteurs de risque tels que l'âge. Ainsi, plus vous vieillissez, plus vous êtes vulnérable en tant que femme à développer un cancer du sein, généralement entre 40 et 50 ans. Mais la plupart des femmes sont diagnostiquées après l'âge de 50 ans. Les femmes doivent s'efforcer de se soumettre à des contrôles de routine, échographie pour les femmes de moins de 40 ans, mammographie pour les femmes de plus de 40 ans et l'auto-examen des seins est essentiel. Les hommes peuvent avoir un cancer du sein bien que les statistiques montrent qu'il est très rare chez eux. Il y a une chance qu'un homme sur 100 ait un cancer du sein, mais le risque que les hommes aient un cancer augmente aussi lorsqu'il y a des antécédents de cancer du sein dans la famille. Notre niveau d'éducation est très bas. Nous avons un accès très limité aux établissements de santé. Notre secteur de la santé est très faible. Donc ce n'est pas une question d'être au courant, mais de savoir où aller et de pouvoir supporter son traitement. Et le traitement est très cher quand il s'agit de cancer, surtout pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Les options de traitement lorsqu'un cancer est diagnostiqué sont la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Beaucoup de femmes qui savent qu'elles ont un cancer ne sont pas en mesure de financer leur traitement. Même si nous avons des centres de traitement et des hôpitaux qui offrent ces services, il ne s'agit donc pas seulement de l'accès au traitement, mais aussi de son financement. C'est là que nous devons mettre en place des politiques pour soutenir le traitement du cancer. Pour réduire le risque, nous avons découvert que l'allaitement maternel est très utile. Le tabagisme est un facteur. Il est donc conseillé aux gens d'arrêter de fumer, d'adopter un mode de vie sain, avoir un bon régime alimentaire, faire de l'exercice physique et avoir un poids raisonnable afin de réduire les risques de cancer du sein. Le message clé est que la détection précoce sauve des vies. Si vous attendez que les signes atteignent des stades avancés, vous risquez de ne pas avoir un traitement comme vous le souhaitez. Les femmes doivent être plus conscientes de leur état de santé à tout moment. Elles doivent se soumettre à des contrôles de routine. Elles doivent emmener leurs filles et leurs mères pour des contrôles de routine. Si vous êtes consciente des dangers du cancer du sein, vous pouvez facilement éduquer la personne à côté de vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre les messages des médias. Vous pouvez éduquer vous-même en utilisant la bonne source d'information. Je pense que cela contribuerait grandement à réduire un grand nombre de cas, notamment ceux qui concernent la présentation tardive du cancer.
Que savez-vous du cancer du sein et êtes-vous préoccupé par la maladie? Voici quelques réactions du Nigeria.
En tant que femme, nous nous soumettons à des examens médicaux de temps en temps et nous vérifions toujours nos seins. Puis les médecins nous examinent de temps en temps. Je le fais parce que je suis consciente que je suis exposée à tout ce qui peut conduire à cela. Je ne joue donc pas avec ma santé et je fais beaucoup d'exercices.
Le cancer du sein existe chez les hommes parce que je me souviens qu'un de mes cousins avait un cancer du sein et même aujourd'hui, je crois que cela le perturbe encore. Donc les hommes aussi ont le cancer du sein.
Non, je n'ai jamais entendu ça avant. C'est la vérité, je n'ai pas entendu dire que les hommes ont les cancers du sein. Non, les hommes ne devraient pas avoir le cancer du sein. Ils n'allaitent pas les enfants. Donc je ne pense pas qu'il devrait avoir le cancer du sein.
Prenons soin des femmes atteintes du cancer du sein. Le cancer du sein tue suffisamment, presque tous les jours. La semaine dernière, l'une de mes sœurs est morte d'un cancer du sein. Et aujourd'hui encore, certaines de mes collègues souffrent de cancer du sein. Donc ils doivent faire quelque chose et prendre soin des femmes concernant le cancer du sein.
Je suis inquiet. Je pense que les hommes aussi devraient être plus attentifs. Je pense qu'ils doivent examiner davantage les hommes comme ils le font pour les femmes.
Au Ghana, des études révèlent qu'environ 70% des femmes qui ne se rendent pas à l'hôpital pour des dépistages précoces du cancer du sein perdent leur sein ou meurent même des suites de la maladie. Breast Care International, une ONG au Ghana, s'attelle pour changer la donne. Reportage de Hamza Adams, récit Abdourahmane Dia.
La marche a eu lieu dans différentes régions du Ghana où des milliers de personnes sont venues sensibiliser sur l'importance de la santé des seins. Le gouvernement du Ghana et les autorités marocaines ont organisé cette action dans le but de réduire le nombre de décès de plus de 2000 femmes par an dans le pays dû à un cancer du sein.
Plus de 2000 sur 4000 femmes diagnostiquées avec un cancer du sein meurent chaque année. Et cela montre que le cancer du sein est une épidémie dans le pays.
Les experts de la santé ont déclaré que la détection tardive du cancer du sein chez les femmes était à l'origine de la plupart des décès et des souffrances.
Lorsqu'une femme remarque une grosseur dans son sein et parce que la grosseur ne lui cause aucune douleur, elle pense qu'il n'y a pas besoin d'agir, d'aller à l'hôpital. C'est le plus gros problème. Alors nous leur demandons d'aller à l'hôpital pour se faire dépister tôt avant que cela ne devienne un gros problème.
Le groupe international de lutte contre le cancer du sein, Breast Care International, a réaffirmé sa détermination à réduire les décès dus au cancer du sein au Ghana et a appelé d'autres donateurs à soutenir l'initiative.
Il y a des organisations au Ghana qui peuvent aider cette cause. Chaque année, nous demandons de l'aide pour soutenir les personnes malades et qui n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital.
Les responsables marocains au Ghana ont promis leur soutien continu à des groupes tels que Breast Care International pour veiller à ce que les décès dus au cancer du sein chez les femmes au Ghana soient réduits.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. Le professeur Gallo Diop est chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Modou sur le suicide. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph, à la réalisation Zainab Abderrahman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.